Chers auditeurs, celui que le roi avait nommé et que le pape avait confirmé dans sa charge pour succéder à Mgr Darboux se trouvait alors lui aussi à Toulouse. Aumônier de la Visitation, Mgr François Lacroix était originaire d'Entragues, au diocèse de Rodez, né en pleine terreur le 16 novembre 1793. Après de brillantes études à Toulouse, il était entré dans la compagnie de Saint-Sulpice et avait été ordonné prêtre en 1820. Mgr Darboux, qui le connaissait bien, le persuada d'accepter de lui succéder à Bayonne. Il reçut la consécration épiscopale le 12 avril 1838 dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur à Paris. Mgr Lacroix arriva à Bayonne le 15 mai 1838. Il y avait une foule innombrable pour l'accueillir au bout du pont Saint-Esprit et pour l'accompagner jusqu'à la cathédrale où eurent lieu les cérémonies d'intronisation. Le lendemain même, Mgr Lacroix publiait son premier mandement. Il y déplorait la démission de son prédécesseur due à la délicatesse extrême d'une âme sacerdotale. Il exposait ensuite son programme pastoral et s'adressait à chaque catégorie de fidèles. Des encouragements fervents allaient surtout à ses prêtres. « Nous vous considérerons toujours, nous vous accueillerons, nous vous aimerons comme des frères. Continuez donc avec une nouvelle confiance et un nouveau courage à paître le troupeau de Dieu qui est auprès de vous. » À peine arrivé à Bayonne, Mgr Lacroix eut à cœur d'accomplir le premier devoir de sa charge, connaître ses brebis pour que ses brebis le connaissent. Il entreprit donc la visite de son diocèse. Ce ne fut pas une petite affaire, son champ d'apostolat était vaste et souvent d'accès difficile. Utilisant tantôt la voiture, tantôt le cheval et marchant parfois à pied, il rencontra les habitants des hameaux les plus reculés. Sa mémoire, qui était précise et tenace, lui permettait de retenir les noms des divers quartiers qu'il visitait et même ceux des personnes qui lui étaient présentées. Cependant, il s'aperçut rapidement que la langue était très souvent un obstacle pour des échanges fructueux. Il n'hésita pas à se mettre à l'étude du basque et du béarnais, et l'on dit qu'il triompha de toutes les difficultés. Mgr Lacroix ne tarda pas à montrer des talents indéniables d'administrateur. Il avait la prudente lenteur des terriens, qu'on trouvait parfois excessive. Mais quand, après mûre réflexion, la décision était prise, elle était irrévocable et il fallait obéir. La bonté chez lui faisait bon ménage avec la fermeté, voire avec la ténacité. Le chapitre cathédral un jour en fit l'expérience. Ce fut une séance assez orageuse dans les salons de l'évêché où Mgr Lacroix avait convoqué les chanoines. Il voulait dispenser de la semaine à prendre au chapitre ceux des chanoines qu'il avait accompagnés dans ses visites pastorales et qui s'y étaient beaucoup fatigués. Les chanoines mettaient en avant que ce n'était pas là la tradition et qu'il fallait la respecter. S'en suivit une discussion, respectueuse certes, mais assez vive. Un vote secret rejeta à l'unanimité l'exemption que demandait Mgr Lacroix. « Puisqu'il est ainsi, reprit ce dernier, jugerai de mon droit, j'apporterai un article au statut et nous verrons. » Un chanoine crut pouvoir lui dire, « Monseigneur, nous pourrons recourir au Conseil d'État. » À ces mots, nous dit le rédacteur du procès-verbal de la séance, Mgr l'évêque s'est laissé échapper en propos que notre considération ne nous permet pas de rapporter ici. On ne sait ce qu'il faut admirer le plus de l'obstination de l'évêque à vouloir alléger les obligations de ses accompagnateurs ou du sens du devoir dont faisaient preuve les chanoines. Au mois d'août 1851, se tint à Auch un concile provincial auquel participa Mgr Lacroix. Le chapitre cathédral y avait délégué deux de ses membres. L'évêque était accompagné de son vicaire général, M. Idabour, et du chanoine Arambourg, que Mgr Lacroix avait choisi comme son théologien. après avoir porté leur attention sur les principales erreurs de ce temps-là et leur avoir opposé la foi de l'Église, les évêques réunis à Auch avaient passé en revue et soumis à des directives ou à des conseils toute l'activité ecclésiale, en particulier la formation des prêtres. L'année suivante, le 8 septembre 1852, Monseigneur Lacroix publiait une lettre pastorale annonçant la réunion d'un synode diocésain. Le Saint-Père venait de donner son approbation au texte du Concile d'Auch. Maintenant, disait Monseigneur Lacroix, il est de notre devoir de les promulguer dans le diocèse, d'en ordonner et d'en surveiller l'exécution. Le synode se réunit donc au grand séminaire de Bayonne le 14 octobre 1852. Il devait durer 6 jours avec les 3 jours préalables de retraite ecclésiastique. Les 3 jours proprement dits de synode furent consacrés à la lecture des 192 articles que comprenaient les décrets du Concile et à répondre aux questions que les prêtres pouvaient se poser à leur sujet. Il était bien difficile à Monseigneur Lacroix de ne pas être un évêque de son temps, c'est-à-dire un évêque concordataire. Mais il le fut avec une grande liberté d'esprit. À partir de 1854, Napoléon III et son épouse vont venir passer l'été à Biarritz. Monseigneur Lacroix eut l'occasion d'accueillir l'empereur à la porte de la cathédrale de Bayonne. Napoléon III, comptant sur un discours du prélat, en avait préparé un assez important et destiné à la publicité. L'évêque de Bayonne garda le silence. L'empereur ne put prononcer son discours. Tous les ressorts de la diplomatie furent, dit-on, mis en jeu pour obtenir le discours auquel Sa Majesté était censée avoir répondu, mais en vain. Par contre, lors de l'expédition militaire en Orient, Monseigneur Lacroix sollicita la prière de tous pour le succès de nos armes en Orient. Il s'agissait pourtant de venir en aide à l'Ottoman musulman contre l'entreprise du tsar russe chrétien orthodoxe. Mais Monseigneur Lacroix n'avait cure de cette situation. La décision de l'empereur était juste. Cette religion prétendue orthodoxe, écrit-il, dont on allègue la défense, qu'est-elle autre chose qu'un schisme odieux, une révolte ouverte et persévérante contre la divine autorité de l'Église et de son chef? Et Monseigneur Lacroix évoque ces Grecs perfides qui ont abandonné la foi de leur père. Il est certain que nous sommes encore loin des perspectives œcuméniques de Vatican II. Toujours selon les exigences du Concordat, la messe solennelle du dimanche se terminait par une invocation en faveur de l'État et de son chef. Monseigneur Lacroix devra intervenir à plusieurs reprises, car durant son épiscopat, la France changera plusieurs fois de régime politique. À son arrivée, on priait pour le roi Louis-Philippe. À son départ, on le fera pour la République. Entre-temps, on avait prié pour le peuple en 1848, pour la République en 1850. L'année suivante, on y avait ajouté Louis-Napoléon. Et à partir de 1852, la République sera absente et durant tout l'Empire, on priera Dieu de sauver notre empereur Napoléon. Et durant tout ce temps, Monseigneur Lacroix n'avait pas manqué d'adresser directives et conseils à ses diocésains au moment des élections municipales et législatives. Nous verrons la prochaine fois ce que fut l'action pastorale de Monseigneur Lacroix.